Oui, donc aujourd'hui, Balzac est devenu un classique hein, qui figure dans les listes que notre époque aime à constituer quand il s'agit de désigner les auteurs qui appartiendraient à la littérature universelle. Et on peut dire que Balzac, Stendhal, Flaubert forment la Sainte Trinité d'un âge d'or du roman français. À l'étranger, on voit que ce sont les trois noms qui s'imposent quand on parle de la littérature française, du roman français. Il est devenu donc un classique, reconnu, ce qui veut peut-être dire aussi méconnu, empoussiéré, j'ose à peine le dire, par la tradition scolaire que nous représentons, d'où la nécessité peut-être d'essayer de lui redonner sa fraîcheur première, alors qu'il risque de devenir auprès de nos élèves un auteur qui ennuie, hein, avec ses romans qui n'en finissent pas de commencer. Il n'est plus en tout cas l'auteur qui dérange, parce que c'est ce qu'il fut d'abord, hein, en son temps. Il était alors doublement en rupture. En rupture avec l'horizon d'attente esthétique, il écrivait un roman qui ne ressemblait pas au roman de l'âge classique, et en rupture aussi avec l'horizon d'attente idéologique. Les contemporains étaient heurtés par ces romans qui ne proposaient pas une morale claire, qui ne proposaient pas de valeur. Et c'est de ces premières lectures que je voudrais repartir hein, pour retrouver donc cette force polémique qu'il y a dans les romans de Balzac. Sur le plan esthétique, il apparaissait en rupture parce qu'il ne ressemblait pas au roman personnel ou au roman intime aussi, comme on l'appelait, qui brillait depuis le commencement du siècle, hein, tous ces récits romantiques comme René de Chateaubriand, Adolphe de Benjamin Constant, ou contemporain de Balzac, La confession d'un enfant du siècle de Musset. Hein, ces romans personnels, donc, qui certes étaient chevillés dans l'époque romantique, il disait le mal du siècle, mais qui esthétiquement s'inscrivaient dans la tradition française du roman d'analyse, hein, dont La princesse de Clèves restait le parangon, le modèle indépassable. Et ce roman d'analyse avait en son cœur la science du cœur, pour parler comme Fontenelle, hein, qui utilisait cette expression à propos précisément de La princesse de Clèves. Et cela se retrouvait donc dans les romans intimes romantiques, où il s'agissait de faire une analyse de la mélancolie, hein, de la mélancolie de ce héros solitaire qui était au centre de ces différents récits. Et ces héros se livraient d'ailleurs eux-mêmes à une introspection. Donc la psychologie était au cœur de ces romans intimes. Et à cette science du cœur, on peut opposer la formule... On peut opposer le titre que Balzac revendiquait fièrement dans La cousine bête, où il se proclamait « Docteur est science sociale ».« Docteur est science sociale ». Le cadre du roman venait de s'élargir. À travers une intrigue romanesque, où certes il reste toujours un héros, une héroïne, il y avait... une société tout entière dont l'histoire aussi était racontée. Barbé d'Aurevilly, admirateur de Balzac, écrit après la mort de celui-ci, « Enfin Balzac vint, d'individuel le roman fut social, où il n'y avait que l'homme, on mit toute une société ». Je tire toutes ces citations d'un volume tout à fait utile hein, intitulé Balzac, donc dans la collection Mémoire de la critique, hein, aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. C'est une collection intéressante à connaître, puisqu'il y a ce volume Balzac, mais il y a aussi un volume Stendhal, un volume Flaubert, un volume Baudelaire, par exemple. Hein, donc il y a comme cela des dossiers de presse rassemblant des articles du premier public des contemporains sur ces différents auteurs. Donc Balzac est en rupture avec l'horizon d'attente esthétique, mais aussi, je le disais, avec l'horizon d'attente idéologique. Nous sommes dans la première moitié du XIXe siècle, à un moment où la société post-révolutionnaire cherche son identité, cherche ses valeurs. Il s'agit de refonder une société, de retrouver une cohésion à cette société. Nous sommes dans ce que les historiens appelleront le siècle des révolutions. C'est un siècle très mouvementé, effectivement. Si on s'en tient même au moment que traverse la vie de Balzac, ça commence avec le Directoire, puis le Consulat, puis l'Empire, puis la première Restauration, les 100 jours, la deuxième Restauration, la Monarchie de Juillet. Et Balzac connaîtra même la Seconde République, puisqu'il meurt en 1850. Donc nous sommes dans ce moment de changement de régime rapide avec cette révolution de juillet 1830 qui sera au cœur de la comédie humaine. Balzac cherche à penser, au fond, à travers ses fictions, ce moment de fracture, à ce moment où on va véritablement passer de la France d'ancien régime, qu'avait représenté encore la Restauration, et toute une partie de toute une série de romans de Balzac se passe sous la Restauration. Donc on va passer de cet ancien monde au nouveau monde, à la France bourgeoise, qui triomphe avec la Révolution de juillet 1830, et donc avec le régime de Louis-Philippe. Et une autre série des romans de Balzac se déroule sous cette monarchie de juillet. De sorte qu'on peut dire que la comédie humaine et cette histoire de France, cette histoire des Français, pour mieux dire, de la Restauration jusqu'au régime de Louis-Philippe. Donc la comédie humaine raconte cette transition de l'ancien monde au monde moderne. Par exemple, Mémoire de deux jeunes mariés, on est un cas frappant puisque l'action commence en 1823, sous la Restauration, pour finir en 1837, donc au beau milieu de la monarchie de juillet. Et au milieu, quoi que ce ne soit pas raconté, il y a cette révolution de 1830, où la peau de chagrin commence juste après la révolution, quelques mois après la révolution de 1830. Vers le mois d'octobre dernier, ce sont les premiers mots de la peau de chagrin, et un lecteur de 1831 savait tout de suite à quel moment on se situait alors. Donc l'histoire privée des personnages va s'inscrire dans cette histoire collective. Mémoire de deux jeunes mariés, dans les subdivisions de la comédie humaine, fait partie des scènes de la vie privée. Mais on voit comment ces scènes de la vie privée n'échappent pas à la vie publique. Les personnages sont pris dans l'histoire, et les mémoires de deux jeunes mariés ne seront pas seulement des confessions amoureuses, comme ce serait le cas dans un roman intime, romantique. Ces confessions amoureuses sont aussi liées à un contexte historique. Qu'est-ce que se marier pour une femme de l'aristocratie à cette époque? Et on voit bien comment une des deux héroïnes, Renée, se rallie au régime de Louis-Philippe parce qu'il faut qu'elle case ses enfants. Elle a besoin d'argent, donc en dépit de ses opinions aristocratiques, elle se ralliera au roi bourgeois. Donc la comédie humaine raconte un moment historique. Mais ce qui déconcerte les lecteurs dans ce grand récit historique de l'époque contemporaine, c'est que Balzac ne peut pas être clairement étiqueté. Il n'est certes pas démocrate, et les classes populaires sont quasi absentes de son œuvre. Ils sont représentés par des valets, des servantes, des concierges. Il y a ce petit peuple, avec d'ailleurs souvent une couleur comique, de l'ordre du pittoresque. Pensons dans La peau de chagrin à Jonatas, le serviteur de Raphaël, qui est caractérisé par un tic de langage. Il y a un comique de mots autour d'un cuir, l'adjectif inconciliable qu'il utilise à la place d'inconcevable, visiblement. Donc, bon, et ce comique de mots revient à plusieurs reprises. Donc il n'est pas démocrate, et il n'est certes pas le porte-parole de la bourgeoisie libérale. Les romans de Balzac enraillent le matérialisme à longueur de page. Il raille cette nouvelle religion du dieu argent. C'est un cliché de la langue du XIXe siècle, le dieu argent, la religion de l'argent, qu'incarne par exemple Fedora dans La peau de chagrin, la femme sans cœur dont Balzac fait à la toute fin du roman une allégorie de la société. Et cette femme, des intérêts matériels. Et pour autant, il n'est pas non plus le chantre de l'aristocratie. Il a beau se dire royaliste convaincu et royaliste légitimiste, royaliste attaché à la Restauration, en tout cas à partir du début des années 1830, il a beau se dire légitimiste, il montre dans ses romans une noblesse sans avenir, une noblesse décadente qui se survit. Il y a une catégorie de personnages, de vieillards, de vieux aristocrates, qui sont comme les derniers survivants d'une race en train de disparaître. Pensons à Monsieur de Mortsauf dans Le Lys dans la vallée, qui est un ancien émigré rentré en France, mais désormais souffreteux. Balzac écrit un autre roman qui s'appelle Le cabinet des antiques, dont le titre signifie donc que les aristocrates survivants sont des antiquités dans le monde moderne. Donc ils ne représentent pas une force d'avenir. Ou pensons encore, pour montrer ce que c'est l'aristocratie a désormais d'anachronique dans le roman de Balzac, au portrait collectif que Louise, dans Mémoire de deux jeunes mariés, fait de l'aristocratie lors d'une scène de bal. C'est aux pages 95-96 où il y a cette description j'en lis simplement les premières lignes, « Les hommes, à de rares exceptions près, ne sont pas mieux là qu'aux Champs-Élysées. » Bon, ça renvoie à une promenade qui a été racontée antérieurement. Ils sont usés, leurs traits sont sans caractère, ou plutôt ils ont tous le même caractère. Ces mines fières et vigoureuses que nos ancêtres ont dans leurs portraits, eux qui joignaient à la force physique, la force morale, n'existent plus. Donc il y a cette idée d'une dégénérescence. Ce passage est intéressant, d'ailleurs, si on pense à la scène de la Vaubyessard dans Madame Bovary de Flaubert, autre scène de bal, où, à part le regard enthousiaste d'Emma, le narrateur, lui, nous suggère que là aussi, il y a une société sans énergie, sans avenir. Bref, on peut dire que Balzac heurte toutes les idéologies du temps. L'idéologie progressiste comme l'idéologie contre-révolutionnaire. Un critique verra en lui un sceptique tourangeau dans la lignée de Rabelais. Ils ont respiré le même air et ça laisse des traces. Retournons-nous donc vers ses premiers lecteurs. Lisons la façon dont ils lisaient pour retrouver la singularité du roman balzacien. On peut dire que les premiers lecteurs définissent le roman balzacien à partir de trois biais, trois aspects qui les déconcertent et par lesquels Balzac semble rompre avec l'histoire du genre romanesque. Les deux premiers concernent l'horizon d'attente esthétique. Il y a un problème de composition. Le roman balzacien n'est pas purement un roman dramatique, centré sur une crise, avec son début, son milieu, sa fin. La pensée classique appliquait au roman la formule d'Aristote à propos du drame, un début, un milieu, une fin. Donc, Aristote n'ayant pas laissé de poétique du roman, et pour cause, il n'y avait pas de roman à son époque. Donc Balzac, au lieu d'épouser cette formule du roman dramatique, écrit un roman encyclopédique, où on a l'impression qu'il veut tout dire, qu'il veut tout montrer, tout méditer, d'où des digressions permanentes. L'intrigue, la trame romanesque est sans cesse interrompue par des discours du narrateur sur les sujets les plus divers. Il y a des temps morts du romanesque. Et le deuxième point concernant l'horizon d'attente esthétique porte sur le style de Balzac. Du fait même qu'il veut tout dire, cette boulimie gâte son style, surcharge ses phrases, surcharge ses paragraphes. Et il y a comme une bigarrure, presque des enchaînements du coq à l'âne qui semblent déranger la cohérence même des paragraphes. Dans un paragraphe, il peut y avoir plusieurs sujets de traité. Donc c'est un roman qui part dans tous les sens et qui est fait de tous les langages. C'est pourquoi ça affecte le style de Balzac, j'y reviendrai, avec des emprunts à tous les vocabulaires spécialisés. Un vocabulaire de la finance, par exemple, ou du droit, ou de la médecine. Le troisième aspect touchera cette fois l'horizon d'attente idéologique. J'y faisais allusion, le roman balzacien raconte sans proposer une morale, sans proposer un idéal. Et le mot réalisme, qui est encore rare à l'époque de Balzac, s'imposera bientôt pour désigner cette littérature étrangère à tout idéalisme. Réalisme fonctionne en antithèse avec le mot idéalisme. Le roman de Balzac apparaît comme un roman démoralisé. Ainsi, l'on pourrait dire que le roman de Balzac déplaît et n'instruit pas. Aux antipodes du précepte « plaire et instruire » de l'Antiquité latine. « Placere et docere ». Ce précepte qui était resté le mot d'ordre de la littérature à l'âge classique. Alors, si l'on fait abstraction de ces jugements de goût des premiers lecteurs, et n'exagérons pas, tous les premiers lecteurs ne détestèrent pas, Balzac eut des admirateurs, et dans toute l'Europe, Balzac est quelqu'un qui a connu un succès européen et qui a donc eu ses admirateurs et ses admiratrices. Balzac passait aussi pour le romancier des femmes. Donc si l'on fait abstraction de ces jugements de goût émanant au fond surtout des critiques établies, leur lecture s'avère éclairante et je voudrais donc détailler les trois caractéristiques que je viens de distinguer ici, en commençant tout d'abord par le roman encyclopédique. Balzac donc paraît détourner le genre romanesque en suspendant sans cesse le cours de l'intrigue, en prenant pour prétexte les aventures des personnages pour nous montrer l'intérieur qu'ils habitent, les objets qui s'y trouvent, les vêtements qu'ils portent. Par exemple, quand Raphaël de Valentin attend Rastignac parti jouer dans une maison de jeu, nous avons une longue description de la chambre de Rastignac, de son désordre, de tous les objets qui s'y trouvent. Donc il y a cette inflation des descriptions qui dérange les premiers lecteurs parce qu'ils sont habitués à l'esthétique classique où les éléments descriptifs étaient réduits au minimum nécessaire. Et les objets, par exemple, n'étaient mentionnés que s'ils jouaient un rôle dans l'intrigue. Le portrait peint de Madame de Clèves, par exemple, dans le roman de Madame de Lafayette. Le roman balzacien, lui, intègre à son récit la civilisation matérielle. Et ça participe de son projet de faire l'histoire des Français. Pour faire l'histoire des Français, il faut aussi décrire le milieu qu'ils habitent. Et Balzac, dans l'avant-propos à la Comédie humaine, alors l'avant-propos à la Comédie humaine peut se trouver dans différentes éditions, mais je vous signale ce petit volume bien pratique, Balzac écrit sur le roman, c'est une anthologie, en livre de poche, vous voyez, dans la petite collection. C'est un vieux volume, donc 49 francs. Bon, c'est pas très cher, vous voyez. Et on y trouve bon, de grands... Enfin, l'avant-propos à la Comédie humaine, par exemple, l'article de Balzac sur la Chartreuse de Parme, certaines lettres à Madame Anska. Donc, vous voyez, dans un format commode, vous avez de grands textes de Balzac lui-même sur l'art du roman. Oui, et dans l'avant-propos à la Comédie humaine, que Balzac écrit en 1842, quand il réunit tous ses romans sous ce titre, La Comédie humaine, Balzac utilise ce mot de milieu, qu'il emprunte à l'histoire naturelle. Le mot n'est pas chez Buffon, mais il est chez Geoffroy Saint-Hilaire, pour désigner donc l'environnement dans lequel évolue les animaux. Et ça fait partie du grand parallèle que Balzac établit pour construire son cycle de la Comédie humaine entre la société animale et la société humaine, entre les espèces zoologiques et ce que Balzac appelle les espèces sociales. Il y a des espèces sociales comme il y a des espèces zoologiques. Et donc il faudra procéder comme Buffon, Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire procédaient pour décrire la faune. Et donc pour décrire le lion, il faut décrire la savane. Et de même, donc pour décrire Rastignac, il faut décrire sa chambre. Le milieu fait partie du portrait. Donc dans l'esprit de Balzac, ce n'est pas une digression. C'est même un élément essentiel pour comprendre qui est le personnage, pour le typifier, le rattacher à un milieu social. Et dans la Comédie humaine, nous avons comme cela de grands milieux différenciés, non seulement l'opposition Paris-Province, mais à l'intérieur de Paris, par exemple, le milieu aristocratique, le Faubourg Saint-Germain, par opposition au milieu bourgeois, la chaussée d'Antin, ou par opposition au Paris de la petite bourgeoisie, le Marais. Et donc tous ces milieux sont représentés dans la Comédie humaine. Dans le Père Goriot, Balzac utilise aussi, pour poursuivre au fond, cette analogie avec l'histoire naturelle, l'image de l'huître et de son rocher. Il l'utilise dans le Père Goriot et dans une petite nouvelle qui s'appelle Gobseck, pour dire bon, que comme l'huître est attachée à son rocher, qu'il faut vraiment vouloir l'arracher pour l'en détacher, de même, l'homme est attaché à son habitat. Donc il s'agit pour Balzac de saisir toute la société dans sa vie quotidienne et dans sa diversité. C'est ce qu'il appelle l'histoire des mœurs. C'est une expression importante chez lui et une sous-partie de la Comédie humaine s'intitule « Étude de mœurs ». Donc il faut raconter, vous voyez, écrire un roman, c'est raconter. Ce n'est pas simplement analyser le caractère d'un personnage, c'est raconter les mœurs des protagonistes. Donc le roman balzacien sera fait de cette imbrication d'une intrigue romanesque et d'une histoire des mœurs. D'où donc pour les premiers lecteurs l'impression d'un récit en forme de digression permanente qui ralentit le rythme dramatique du roman, d'une pulsion encyclopédique avec un narrateur aux multiples compétences. Je cite ici un philosophe français, Hippolyte Taine, dans un texte qui s'appelle tout simplement Balzac, qui se trouve dans ce volume « Mémoire de la critique », donc là aussi écrit quelques années après la mort de Balzac. Et Taine, admirateur de Balzac, écrit « Il y avait en lui un archéologue, un architecte, un tapissier, un tailleur, une marchande à la toilette, un commissaire-priseur, un physiologiste et un notaire. Ces gens-là arrivaient tour à tour, chacun lisant son rapport, le plus détaillé du monde et le plus exact. D'où effectivement tous ces langages spécialisés que l'on trouve dans le roman de Balzac et qui ne sont pas forcément dans la bouche de personnages spécialistes, comme ce sera le cas plus tard chez Zola. Quand Zola, qui se documente soigneusement, veut replacer un petit morceau de savoir d'un domaine spécialisé, il s'arrange pour que ce soit un personnage qui parle en spécialiste. Par exemple, au début de Germinal, Étienne Lantier, qui ne connaît pas le monde de la mine, arrive et il croise un mineur, Bonnemort, et Bonnemort, le mineur, va lui décrire cet univers de la mine. Ou encore, chez Zola, le personnage de Claude Lantier, qui est le personnage du peintre, sera celui qui parle en technicien de son art de la peinture. Alors évidemment, cela arrive aussi chez Balzac. Puisque je parle du peintre, il suffit de penser à la petite nouvelle qui s'appelle « Le chef-d'œuvre inconnu », qui met en scène trois peintres discutant sur leur art. Mais très souvent, c'est le narrateur lui-même qui endosse ce rôle, qui parle en spécialiste quel que soit le sujet, qui adopte par exemple le langage du tailleur pour décrire la coupe et l'étoffe des vêtements, les vêtements sont longuement décrits là aussi chez Balzac, ou qui adopte le langage de l'architecte pour décrire la façade d'une maison. Je prends l'exemple de la façade d'une maison flamande à Douai, au début de la recherche de l'absolu. La description de cette façade dure 4 pages. Donc c'est assez éprouvant. Et je m'en contenterai d'en extraire seulement 2 phrases pour faire entendre la tonalité technique du passage et pour faire entendre aussi à quel point ce langage si précis, qui se veut univoque, le langage du spécialiste, devient pour le lecteur inintelligible. Le paradoxe, c'est que cette scène ne donne pas à voir, qu'elle est à la fois hyper réaliste et on n'y comprend rien. Donc, je vous inflige ces 2 phrases. De chaque côté de la porte, au rez-de-chaussée, se trouvaient 2 croisées semblables à toutes celles de la maison. Leur encadrement en pierre blanche finissait sous l'appui par une coquille richement ornée, en haut par 2 arcades que séparait le montant de la croix qui divisait le vitrage en 4 parties inégales, car la traverse, placée à la hauteur voulue pour figurer une croix, donnait aux 2 côtés inférieurs de la croisée une dimension presque double de celle des parties supérieures arrondies par leur cintre. Vous voyez, il y a vraiment cette minutie, on dirait presque du robe grillé. Vous voyez, dans le nouveau roman, on aura ces descriptions aussi qui n'en finissent pas et au risque de l'ennui. Nous sommes, en plus, dans ces pages, au début du roman. Donc, vous voyez, Balzac ne pratique pas l'incipit in medias res, où l'on verrait tout de suite, à la manière d'Alexandre Dumas, personnage en action, D'Artagnan au début des 3 mousquetaires, et déjà, voilà, 3 duels qui se profilent. Donc, ce n'est pas l'horizon d'attente du lecteur du temps. Balzac ne cherche pas à captiver le lecteur, à lui donner envie de lire la suite. Même si, pour un lecteur plus attentif, la description finit par avoir sa motivation. Cette façade reflète la mentalité flamande, faite de patience et d'ordre. Donc là aussi, il y a un portrait caché, une description anticipée des habitants de la maison que l'on va bientôt, découvrir. De fait, il y a de nombreuses réactions agacées face à cet encyclopédisme. Je cite un journaliste, Gachon de Molène, à propos d'Illusions perdues. L'auteur dispense à travers les chapitres de son roman de longs fragments qui seraient mieux à leur place dans la collection des manuels Roré. Alors, les manuels Roré au XIXe siècle, c'est l'équivalent de notre collection Que sais-je. Donc, voilà, il y a cette idée bon, que dans la comédie humaine, hein, on a tous les Que sais-je que l'on veut. Et Gachon de Molène pense, puisqu'il parle d'illusions perdues, pense aux digressions sur les travaux de l'imprimeur. Hein, on a ces descriptions des presses, comment est-ce que l'on imprime. Les digressions aussi sur la saisie et la contrainte par corps. Hein, dans la troisième partie du roman, David Séchard doit se cacher parce qu'on veut l'arrêter. Donc on a un vocabulaire juridique très présent hein, dans la comédie humaine. Et surtout, il pense à la plus spectaculaire des digressions dans Illusion perdue, celle sur l'histoire du papier. On a une longue histoire du papier depuis l'Antiquité, et cette fois, elle est placée dans la bouche d'un personnage. Alors, de façon, je dirais, qui fait sourire, puisque c'est David Séchard, l'inventeur. Alors, en même temps, ça montre bon, qu'il a cette idée fixe, hein, comment abaisser le prix du coût de papier, Et l'imprimeur David Séchard raconte cette histoire du papier à sa Dulcinée. Il est sur le point de faire sa déclaration d'amour sur les bords de la Charente. Donc voilà, l'idylle se met en place. Et tout à coup, bon, voilà qu'il assomme cette malheureuse sœur de Lucien de Rubempré, Ève, avec cette histoire du papier. Alors, parmi tous ces langages spécialisés, il en est un qui domine. C'est le langage de la finance. Et le langage juridique, par contre-coup, se greffe sur lui. L'argent appelle la chicane dans les romans de Balzac. Balzac apparaît non comme un romancier de l'amour, mais comme le romancier de l'argent. La comédie humaine aborde tous les sujets, mais tout finit toujours par s'organiser autour de ce centre de l'argent, donc, qui est au cœur de la société moderne. Je le disais à propos de René dans Mémoire de deux jeunes mariés, hein, dont l'amour pour son mari passe au second plan. Il y a d'abord bon, cette recherche sans cesse des places pour pouvoir ensuite assurer un avenir à tous ses enfants. Donc les romans balzaciens sont des histoires de lettres de change, de dettes, d'enrichissement, de paupérisation, de ruines. Pensez aussi dans La peau de chagrin, à la page où Raphaël va expliquer à Émile comment il gérait son budget hein, quand il était pauvre. Et là, on a toute une page hein, qui nous détaille le prix des choses. Mon logement me coûtait 3 sous par jour, je brûlais pour 3 sous d'huile par nuit, je faisais moi-même ma chambre, je portais des chemises de flanelle pour ne dépenser que 2 sous de blanchissage par jour, etc. Donc on a sans cesse hein, ce moment où les personnages font leur compte, parfois en sous chez Raphaël, parfois en millions chez le banquier Nucingen ou chez le père Grandet. Et c'est nous dire que l'économie, désormais, commande les rapports sociaux. Jules Vallès y verra la marque novatrice de Balzac. L'argent, pensée obsédante de la société bourgeoise moderne, est l'objet des livres de Balzac. Je cite Vallès. Balzac est le premier qui ait poétisé, romantisé et dramatisé l'argent. Toutes les autres valeurs hein, semblent se subordonner au désir des biens matériels, à l'amour des biens matériels. C'est une expression d'ailleurs de Tocqueville hein, dans De la démocratie en Amérique, quand Tocqueville veut caractériser ce qu'est la société démocratique, elle repose sur l'amour des biens matériels. Donc l'histoire, Tocqueville est un contemporain hein, de Balzac, hein, de la démocratie en Amérique, paraît premier volume en 1835, second volume en 1840. Donc les histoires d'amour deviennent des histoires d'argent. J'en prends un exemple dans le Père Goriot. Delphine, une des filles du Père Goriot, donc riche bourgeois enrichi grâce à la Révolution, à la vente des biens nationaux, donc Delphine a épousé le banquier Nucingen. Donc si nous étions dans un romanesque traditionnel, nous lirions Delphine aimait Nucingen, deux points, elle l'épousa, point. Mais nous sommes dans le monde moderne de l'argent. Balzac écrit donc, Delphine aimait l'argent, deux points, elle épousa Nucingen, point. Ainsi, l'écriture balzacienne, encyclopédique, centrifuge, finit toujours par être ramenée à ce centre qui est la monomanie de la nouvelle société, hein, la religion de l'argent. On pourrait en prendre comme scène emblématique la scène de la mort du père Grandet dans Eugénie Grandet, hein, où sur son lit de mort, le père Grandet reçoit les derniers sacrements, donc le prêtre arrive avec un bénitier d'argent et un crucifix en vermeil. Et ce que le père Grandet voit, évidemment ce ne sont pas les objets du rite religieux, mais c'est la matière précieuse. Et son dernier geste avant de mourir, c'est d'essayer d'étreindre le crucifix de vermeil. Et on comprend que cette fois, le Christ ne ressuscitera pas. On passe donc de la religion chrétienne, pilier de la société d'Ancien Régime, l'alliance du trône et de l'autel, à cette religion de l'argent, qu'incarne jusqu'à son dernier souffle le père Grandet. C'est dire que Balzac ne se contente pas de décrire les différentes facettes de la société, de faire l'histoire des mœurs des différents milieux, de décrire la civilisation matérielle. Il cherche aussi le sens de ces mœurs. Il cherche le moteur social, le principe des comportements. Et dans son article sur Balzac, Taine y voit la force du roman balzacien. Le romancier ne fait pas que distribuer des savoirs qui auraient une valeur pittoresque de couleur locale. Il est un penseur. Un penseur à la recherche du sens de son époque, de sa manière de fonctionner, ou, dirait-on mieux, de dysfonctionner. Voici les propos de Taine. Non seulement il décrit, mais il pense. Il n'a pas assez de voir la vie, il la comprend. Le célibat, le mariage, l'administration, la finance, la luxure, l'ambition, toutes les situations principales, toutes les passions profondes, voilà le fond de son œuvre. Il a philosophé sur l'homme. On retrouve dans cette analyse le Balzac, docteur en sciences sociales. Et on pourrait définir la comédie humaine, et à mon sens tout le réalisme d'ailleurs, celui de Stendhal ou celui de Flaubert aussi bien, comme une sociologie critique du XIXe siècle, sous forme de fiction. Écoutons Balzac lui-même à ce sujet, dans la préface à un de ses romans peu connus, Une fille d'Ève, un roman de 1839. Dans cette préface, Balzac écrit « L'auteur a devant lui pour modèle le XIXe siècle, modèle extrêmement remuant et difficile à faire tenir en place. » Donc il s'agit de saisir le siècle. Balzac dit encore, dans cette même préface, représenter le présent qui marche. Une belle formule qui nous montre bien que le réalisme n'est pas, comme on le dit peut-être trop, de façon trop simplifiée, une copie du réel, mais il est une tentative de comprendre le devenir du réel. Le réel en voie de transformation, exemplairement, ce passage, pour Balzac, ce passage d'une société d'ancien régime à la France moderne. Vous voyez, il y a la même chose chez Stendhal, si on pense au sous-titre du Rouge et le Noir, c'est chronique du XIXe siècle. Hein, chronique du XIXe siècle. Hein, Balzac comme Stendhal se sont pensés hein, en tant qu'appartenant, donc non pas à quelques années comme cela dans une histoire, mais à un siècle. Et c'est ce siècle qu'il s'agit de définir, de comprendre. Donc dans l'encyclopédie balzacienne domine cette enquête sociologique, ce savoir sur le monde contemporain, que les récits de la comédie humaine, comme des allégories, permettent de construire. Et un des moyens, par exemple, un des moyens esthétiques de Balzac pour construire ces allégories, c'est d'utiliser ces personnages comme des types, et des types sociaux, à la différence des caractères de La Bruyère, un personnage... Donc de Balzac, c'est à la fois un individu qui a sa psychologie propre, mais aussi un type. Rastignac, Lucien de Rubempré, Raphaël de Valentin ont chacun leur psychologie, mais ils sont le même type du jeune homme ambitieux qui essaie de parvenir dans la société moderne. Où nous avons bon, les types du notaire, les types du curé, etc. Donc tout le nombreux personnel romanesque de Balzac permet de multiplier ces types. Et dans une lettre à Madame Anska, Balzac fera de cet usage du type une de ses grandes réussites. Il lui écrit « J'ai individualisé le type, et typifier l'individu. Donc il y a cette idée d'un équilibre. Vous voyez, donc il y a la part du romanesque, l'histoire d'un individu, puis cette part sociologique, disons, le type. Donc, c'est aussi la définition inouïe du roman balzacien. Il est une œuvre de savoir. Il se veut une œuvre de savoir. Non pas une fiction... conçu uniquement pour divertir. Et il faut penser que le mot romanesque, d'ailleurs à l'époque de Balzac, avait fini par devenir péjoratif, comme il peut l'être dans certains emplois que nous en faisons dans la langue, quand on parle d'un esprit romanesque, bon, pas sérieux. Alors Balzac, lui, entend donner une dignité au roman, cette dignité que l'âge classique lui refusait dans la hiérarchie des genres. Le roman était considéré comme un genre mineur. Je cite encore une lettre à Madame Anska, en 1845, donc à un moment où Balzac est proche de la fin de son œuvre. « J'ai beaucoup gagné auprès des gens sérieux. On commence à comprendre que je suis beaucoup plus historien que romancier. » Beaucoup plus historien que romancier. Et pour s'auto-désigner dans la comédie humaine, Balzac n'utilise jamais le mot romancier à l'intérieur de ses romans. On a tantôt le mot neutre d'écrivain, tantôt, et de plus en plus souvent au fil des rééditions, l'expression historien des mœurs. Un historien des mœurs, c'est aussi une manière de poser son originalité face aux historiens de profession, qui sont des historiens des événements, qui racontent, qui construisent leurs récits autour de grandes dates. Balzac ne le fait pas. Dans la comédie humaine, il ne raconte jamais la révolution de 1830 en elle-même, mais il en raconte les causes et les conséquences, en quelque sorte.